Service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, chez Robin Dorcel et Morgane Guiriac à Washington. Bienvenue à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Les grands points de l'actualité. En France, le gouvernement renforce la sécurité pour parer à de nouveaux attentats terroristes.
Boko Haram est encore dans l'actualité. Cette fois, la secte islamiste nigériane a visé une base militaire dans le nord-ouest du Cameroun.
Au Gabon, la maison de l'opposant Jean Ping fait l'objet d'une attaque qu'il attribue à des partisans du régime d'Ali Bongo.
Haïti marque un temps d'arrêt ce 12 janvier pour un triste anniversaire. Il y a 5 ans, un séisme a dévasté plusieurs régions de la partie occidentale de l'île.
Il y a beaucoup de satisfaction, beaucoup de promesses non tenues et la reconstruction véritablement que tous les Haïtiens espéraient, attendaient, n'est pas vraiment au rendez-vous aussi on tire un bilan.
On fera le point avec un correspondant sur place à Port-au-Prince.
Remise aujourd'hui du ballon d'or de la FIFA. Qui de Messi, Ronaldo ou Neuer l'emportera? Ne manquez pas notre page sport.
Et nous aurons comme d'habitude la minute économie et aussi la musique. Mais d'abord, le journal.
La France a décrété aujourd'hui la mobilisation de milliers de soldats et policiers pour parer à la menace de nouveaux attentats. C'est au lendemain d'une journée historique de manifestations contre le terrorisme. Idriss Fall.
Sur ordre du président François Hollande, 10 000 soldats seront déployés à partir de mardi soir sur des points sensibles du pays, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. La moitié de ces policiers et gendarmes seront affectés à la protection de 717 écoles et lieux de culte juifs. D'ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était à la marche hier, s'est rendu aujourd'hui au supermarché Kacher où 4 juifs ont été tués vendredi pendant une prise d'otage. Hier, Paris a été le théâtre d'une manifestation historique avec plus d'un million de personnes, dont 6 présidents africains parmi la 50aine de dirigeants venus du monde entier. Le premier ministre français Manuel Valls a assuré ce lundi que la traque se poursuit pour retrouver d'éventuels complices des 3 djihadistes qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris.
Le groupe islamiste nigérian Boko Haram a attaqué ce lundi une base militaire de Kolofata dans le nord-ouest du Cameroun. Jean-Roger Bian.
L'attaque a visé le quartier administratif où se trouvent la sous-préfecture, la gendarmerie et les camps d'une unité d'élite de l'armée selon la police camerounaise dont s'est fait écho l'AFP. Aucun bilan de l'attaque n'était disponible en début d'après-midi. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a menacé dans une vidéo postée sur YouTube le président camerounais Paul Biya au début du mois de janvier. Boko Haram a lancé depuis quelques mois une série d'attaques dans la région du nord-ouest du Cameroun, partageant une frontière commune avec le nord-est du Nigeria. Kolofata a été plusieurs fois la cible de Boko Haram, notamment en juillet 2014, où plusieurs personnes ont été tuées. C'est dans cette même région où 27 personnes, dont l'épouse d'un vice-premier ministre, avaient été enlevées, puis libérées après plusieurs semaines de captivité.
À Libreville, au Gabon, le domicile de l'opposant Jean Ping a été attaqué. Cité par l'AFP, il affirme que les assaillants étaient une bande de 200 jeunes affiliés au régime. Ils sont venus nous agresser à coups de cailloux. Ils ont allumé un feu, cassé les vitres, explique l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping accuse la gendarmerie de ne pas être intervenue. Nous avons alerté des militants qui ont livré bataille, poursuit-il. Ces jeunes auraient été déshabillés et mis en caleçon par les militants avant d'être remis à la police judiciaire qui s'est rendue sur place.
Burundi, la mission d'observation électorale de l'ONU a officiellement débuté ses travaux aujourd'hui à Bujumbura. Une inauguration qui s'est toutefois déroulée en l'absence de représentants du gouvernement en raison de divergences sur la finalité de cette mission.
Par ailleurs, le congrès du parti burundais d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement a choisi son président en exil, Alexis Sindouindje, comme son candidat à la présidentielle de juin 2014.
Je crois que c'est la présidentielle de juin 2015 au Burundi.
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission.
Remous politique au Mozambique. La RENAMO, principal parti d'opposition, a boycotté l'investiture du nouveau Parlement aujourd'hui. La RENAMO conteste les résultats des élections législatives et présidentielles d'octobre dernier, alors que son leader, Afonso Daklama, menace de créer une république autonome dans le centre et le nord du pays. Le boycott n'a pas empêché Véronica Makamo du Frelimo d'être réélue présidente présidente de l'Assemblée avec 142 voix sur les 250 sièges que compte la Chambre.
En Égypte, 26 hommes accusés d'avoir organisé ou participé à des orgies homosexuelles dans un hammam public ont été acquittés. Un verdict sans précédent dans un pays où être gay est mal perçu, même si la loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Islamabad pour des entretiens avec le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. La visite de M. Kerry n'avait pas été annoncée publiquement, Lionel Gaïmard.
Il s'agit pour le chef de la diplomatie américaine qui effectue une tournée d'une semaine en Asie et en Europe de discuter de la prochaine réunion ministérielle sur le dialogue stratégique entre les États-Unis et le Pakistan. Selon un haut responsable du département d'État américain, ces discussions seront d'une importance cruciale pour faire avancer le combat commun contre l'extrémisme en resserrant la coopération antiterroriste entre Washington et Islamabad. Le mois dernier, une attaque de talibans a fait 150 morts dans une école de Peshawar. John Kerry doit se rendre aussi en France pour exprimer la solidarité des États-Unis après que l'administration Obama a été critiquée pour n'avoir envoyé aucun représentant de haut rang à la grande marche contre le terrorisme hier à Paris.
Progrès important dans les opérations de recherche de l'avion d'Air Asia. Les plongeurs de la marine indonésienne ont repêché l'une des boîtes noires. Après analyse, elle pourrait fournir des informations sur les causes du crash. Toutes les 162 personnes à bord ont trouvé la mort quand l'Airbus s'est abîmé dans la mer de Java le 28 décembre dernier. L'autre boîte noire, celle se trouvant dans la cabine de pilotage, n'a pas encore été repêchée, mais elle a été localisée.
Les ministres des Affaires étrangères ukrainiens, russes, allemands et français se sont réunis ce soir à Berlin pour discuter de l'opportunité d'un sommet pour l'Ukraine, annoncé pour le 15 janvier au Kazakhstan. C'est ce qu'annonce l'agence France-Presse, rappelant que la réunion s'est déroulée sur fond de regain des violences dans l'est de l'Ukraine. Toutefois, rien n'est sûr à propos de ce sommet. Les participants, Vladimir Poutine, Angela Merkel, François Hollande et Petro Poroshenko, attendent des progrès à Berlin pour décider si oui ou non ils se rendront à Astana jeudi.
L'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych a été placé sur la liste des personnes recherchées par la police internationale Interpol. Il est poursuivi par la justice ukrainienne, lit-on sur le site web d'Interpol, pour détournement de fonds et malversations à grande échelle. Yanukovych s'est enfui de son palais à Kiev en février de l'année dernière, après des manifestations de masse qui ont fait plus de 100 morts. Il a trouvé refuge en Russie.
Cuba a libéré 53 prisonniers politiques selon le gouvernement américain. C'est l'accomplissement d'une promesse faite en décembre dernier, lorsque le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont simultanément annoncé des efforts visant à normaliser les relations entre Washington et La Havane. La section des intérêts américains dans la capitale cubaine a pu vérifier que les prisonniers sont bel et bien en liberté, a déclaré un officiel américain ce lundi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Et c'est l'heure de la Minute Éco pour tout savoir de l'actualité économique en Afrique. Avec nous en direct dans ce studio, Jean-Roger Billon. Bonsoir.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le salon de l'automobile de Détroit a ouvert ses portes aujourd'hui en offrant toute une gamme de nouveautés.
Eh bien, le secteur automobile aux États-Unis est en plein essor. L'année 2014 s'est achevée sur une vigoureuse hausse des ventes à plus de 5,8%. À Détroit, des milliers d'exposants et visiteurs peuvent admirer des dizaines de premières mondiales de séries et prototypes exposés sur des stands étincelants.
45 milliards de francs CFA d'exonération fiscale et douanière pour les entreprises au Cameroun.
Plus de 4 sociétés dirigées par des opérateurs camerounais sont éligibles à cette disposition. L'État y voit une opportunité de créer 1600 emplois sur les 2 prochaines années. L'initiative est conduite par l'Agence de promotion des investissements, l'API, qui accorde ainsi une prime à l'investissement privé.
Et en Algérie, l'exploitation du gaz de schiste va continuer malgré l'opposition des habitants du Sahara où se trouvent les gisements.
Le groupe public algérien Sonatrach va investir pas moins de 70 milliards de dollars sur 20 ans. Ce projet devrait permettre la création de 50 000 emplois selon le groupe. Les manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste se sont multipliées dans les villes du Sahara algérien depuis que le groupe pétrolier a annoncé à la fin du mois de décembre avoir effectué avec succès son premier forage pilote dans la région d'In Salah.
Voilà pour la Minute Écho de ce lundi. Merci Jean-Roger Billon.
Actualité sportive sur VOA Afrique, c'est avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin, bonsoir à tous.
Alors sans plus attendre Nicolas, nous allons prendre la direction de Zurich, où doit être remis dans quelques instants le Ballon d'Or de la FIFA 2014. Il y a trois finalistes.
Eh oui, trois finalistes pour un trophée. Cristiano Ronaldo est le grand favori à sa propre succession devant Lionel Messi et Neuer, le gardien allemand.
Et pourquoi Ronaldo est favori?
Ah, évidemment, il est favori parce qu'il a eu encore une fois, on va dire, c'est un peu une répétition pour lui, mais une saison exceptionnelle pour ce jeune joueur encore, 29 ans, l'attaquant portugais du Real de Madrid a fait exploser tous les compteurs en 2014. Il se positionne donc logiquement comme le principal prétendant à ce trophée qu'il a déjà remporté en 2008-2013. Alors, il a fini évidemment meilleur buteur du championnat espagnol avec le Real de Madrid. Il a surtout remporté 4 trophées. La Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, le Mondial des Clubs et la Super Coupe d'Europe. Évidemment, ça fait un beau palmarès, mais certains diront qu'il n'a rien gagné avec le Portugal, puisqu'on se souvient de l'élimination au premier tour de cette Coupe du Monde brésilienne avec la sélection portugaise. Alors, il va falloir attendre. Un premier trophée est déjà tombé il y a quelques secondes. C'est celui du meilleur entraîneur de l'année. Il a été remis, évidemment, à Joachim Löw. J'espère qu'on prononce comme ça. Le sélectionneur allemand, évidemment. La brillante équipe d'Allemande qui a terrassé le Brésil 7-1 en demi-finale et qui a surtout gagné ce mondial brésilien, c'était cet été.
Et qui nous a tous brisé le cœur, à nous les fans du Brésil.
Ah oui.
7-1, ça Nicolas, on n'est pas prêt de l'oublier.
Ouais, et Joachim Löw qui devance quand même deux autres finalistes, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real de Madrid, et l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, champion d'Espagne.
Parlons maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2015. Dernières infos sur la compétition.
Victime d'une élongation, Fakhreddine Ben Youssef, le nouvel attaquant du FC Metz, a été contraint de déclarer forfait pour cette CAN avec la Tunisie. Un autre attaquant, le Sénégalais Sadio Mané de Southampton, il a rejoint ses coéquipiers en équipe nationale. Il est arrivé hier en début de soirée au Maroc pour se préparer sa sélection pour la CAN. Annonce de maître Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football. Et puis, alors que la Coupe d'Asie de football vient de débuter en Australie, tout le monde a regardé avec attention ce match intéressant ce 12 janvier. C'était évidemment l'équipe du Japon qui affrontait en sélection la Palestine, qualifiée pour la première fois de la compétition. Cette compétition qui est la plus prestigieuse de la zone asiatique. Eh bien, ça s'est mal terminé évidemment pour les Palestiniens qui ont subi une très lourde défaite, 4-0.
Mais c'était leur première participation, ça on le comprend Nicolas Pino. Et si on parlait de basket, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Atlanta a consolidé son statut de leader de la conférence Est et surtout d'équipe surprise de ce début de saison avec la 8e victoire de suite. C'était dimanche face aux Wizards de Washington, le score 120-89. Et puis autre équipe en forme, Portland, qui est devenue la première équipe avec 30 victoires après son propre succès sur le parquet des Lakers. Décidément, ça va mal, 106-94. Alors à l'inverse, on parlait souvent cette saison de LeBron James et des Cavaliers. Nouvelle défaite de Cleveland sans son joueur vedette. 5e défaite d'affilée. C'est la 19e de la saison. Cette fois, c'était à Sacramento. 103-94. Ça va pas bien, chérubin.
Toujours quand LeBron n'est pas là, ça va très mal aux Cavaliers. Et quand LeBron a laissé Miami pour se rendre à Cleveland, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des progrès évidents dans l'équipe. Oui, on en a vu, mais quand il n'est pas là, ça va pas.
Eh oui, tout à fait. Alors, autre résultat, vous parlez de Miami. Les Los Angeles Clippers se sont tombés de haut devant leur public face à Miami qui les a surclassés 104-90. Et puis, on va donner un dernier petit résultat. C'était dimanche. Ça s'est joué dans les prolongations. C'est Memphis qui a battu Phoenix 122-110.
Voilà pour l'actualité sportive sur la Voix de l'Amérique ce lundi. C'était avec Nicolas Pino.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Robin Dorsey, les Morgan Guiriec en votre compagnie, Studio 13 de La Voix de l'Amérique ici à Washington, édition du 12 janvier 2015, les dossiers du jour.
Six chefs d'État africains étaient présents hier à la grande manifestation contre le terrorisme en France. L'un d'entre eux a même versé une arme sur le pavé parisien. La veille, Boko Haram a rasé plus de 16 villages de pêcheurs et tué des milliers de personnes au Nigeria. Idriss Fall, un joint Ferro Bali, éditorialiste ivoirien à Abidjan.
La mobilisation de l'Afrique francophone en particulier, nous pouvons comprendre que nos autorités adressent des lettres de compassion à leurs homologues françaises. Mais jusqu'à ce que les présidents africains se déplacent pour aller à Paris, parce qu'il y a eu 17 morts en 3 jours à Paris, est tout à fait incompréhensible. Et au Nigeria, à côté de nous, depuis bientôt 5 ans, un groupe islamiste sème la désolation et la mort. Et samedi, la veille de la marche à Paris, 16 villages ont été rasés au Nigeria et aucun mot d'aucun chef d'État africain, y compris ceux de la CDAO, pour compatir à la peine d'un pays voisin qui est le Nigeria.
Thomas Yayi Boni a même versé une larme alors que le Bénin est le voisin immédiat du Nigeria. Et les 200 lycéennes qu'on a enlevées jusque-là, on ne l'a pas entendu ni vu verser une larme.
Ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que la France de François Hollande a organisé à Paris un sommet spécial sur la situation sécuritaire au Nigeria de nature à affronter Boko Haram. Même depuis ce sommet qui a eu lieu à Paris, ni la France, ni la CDAO, ni aucun de ces chefs d'État ne s'est mobilisé pour affronter Boko Haram qui continue de faire donc des dégâts au Nigeria au vu et au su de tout le monde. Des filles ont été enlevées, des jeunes sont enlevés. Tout un drame se déroule en Afrique devant un silence inadmissible et incroyable pendant que nous nous interrogeons sur les voies et moyens pour combattre Boko Haram. Voici les chefs d'État qui vont en France pendant que les autorités françaises arrivent à neutraliser les 3 assaillants. Nous nous sommes ici impuissants pendant que nos peuples sont en train de subir les affres de la rébellion et du terrorisme de Boko Haram.
C'est pourquoi Paul Biya, le président camerounais, dénonce l'hypocrisie de ses pairs.
Naturellement, ce silence déplaît à certains chefs d'État africains. Et Paul Biya, il a dit ce que nous passons tous dans. C'est une honte que des chefs d'État se rendent en France parce que la France est victime d'actes terroristes et reste silencieux devant le drame nigérian. C'est donc une honte pour toute l'Afrique. C'est une honte pour nos autorités, c'est une honte pour nos institutions sous-régionales.
Ferro Bailly est éditorialiste ivoirien à Abidjan.
Présidentielle 2015 au Burundi, le Mouvement pour la solidarité, parti d'opposition, a choisi ce week-end son candidat pour cette élection tant attendue, voire redoutée par certains observateurs. Alexis Ndouidje, président en exil du MSD et sous le coup d'un mandat d'arrêt, a été désigné par les membres de son parti au cours d'un congrès organisé à Ngozi. Le MSD compte se présenter à toutes les élections de 2015 dans le cadre de l'Alliance démocratique pour le changement au Burundi. Nicolas Pinault a joint François Nyamoya, le secrétaire général du MSD.
Pour les congressistes, ça leur a paru assez naturel parce que il leur semblait tout naturellement lui qui était mieux indiqué. Bon, il y a tout ce combat qu'il a mené aussi qui est déterminant parce qu'il a fait face à beaucoup d'adversités et sa ténacité est un atout pour justement briguer une candidature.
Alexis Ndouidje a un mandat d'arrêt contre lui, il est actuellement en fuite, hors du Burundi. Du coup, peut-il vraiment se présenter à cette élection présidentielle?
C'est vrai que cela a été tenu en compte d'ailleurs, parce que le Congrès a aussi donné au bureau politique et aux comités provinciaux la possibilité de s'adapter aux circonstances. Mais nous avons fait ce choix malgré cela parce que on est conscient que la plupart des candidats potentiels ont tous des dossiers judiciaires. Et cela ne peut pas rester ainsi. Et nous pensons que l'évolution politique va faire qu'à un moment ou à un autre, ces poursuites vont s'arrêter, que ce soit contre Alexis, que ce soit contre d'autres aussi candidats potentiels. Donc on a mis malgré cela dans cet espoir-là.
Où en est le processus politique depuis l'appel par l'opposition à la démission des membres de la Commission électorale nationale indépendante ?
Nous continuons à penser qu'il faut que cette CENI démissionne. À moins qu'elle change à 360 degrés, parce qu'on ne voit pas comment les élections peuvent se dérouler normalement avec une CENI aussi soumise au pouvoir. Mais je crois que l'évolution politique finira par nous donner raison, à défaut de démission de la CENI, tout au moins celle de son changement de cap. D'autant plus qu'il y a beaucoup de voix maintenant qui s'affirment de plus en plus et qui ne sont pas nécessairement des voix des partis politiques. Et même à l'intérieur du parti au pouvoir, qui s'affirme pour dire que le président Nkurunziza ne doit pas briguer un troisième mandat. Cela aussi peut influer sur le comportement de la CENI dès lors que le président ne se représente plus.
François Nyamuya, joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura, et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En République démocratique du Congo, l'opposition tente de bloquer l'examen et le vote de la nouvelle loi électorale. Eddy Isango a fait parler des membres de l'opposition et du gouvernement à ce sujet.
Brouhaha, coups de sifflets interminables et tapages en tout genre ont constitué la tactique de l'opposition lundi pour perturber la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de la nouvelle loi électorale. Les opposants dénoncent ces projets de loi déposés par le gouvernement comme une tactique de la majorité présidentielle pour prolonger les mandats du président Kabila au-delà de 2016 et sans passer par les élections. Martin Fayulu, leader d'une plateforme de l'opposition dénommée Sauvons la RDC, dont les partisans ont été dispersés dimanche et lundi matin, explique pourquoi l'opposition a perturbé la séance.
Ces projets en son article 8, que le préalable pour organiser les élections dans ce pays, c'est le recensement. Pour organiser les élections à venir, c'est le recensement. Il faut aller aux opérations de recensement souvent pour faire le recensement. Donc, voilà le glissement que M. Kabila a cherché. Il veut le dire, mais on ne le laissera jamais.
Pour l'opposition, un recensement ne mettra pas moins de 3 ans à être réalisé dans ce vaste pays, vu les moyens qui devront être engagés, les conditions des routes et des transports pour accéder à l'intérieur du pays. La séance parlementaire s'est poursuivie dans les brouhaha, malgré la menace du président de l'Assemblée, Aubin Minaku, de faire intervenir la police pour déguerpir les perturbateurs. Pour sa part, la famille politique du président Joseph Kabila estime que la nouvelle loi électorale, notamment les recensements, est une nécessité pour corriger les erreurs constatées lors des élections précédentes. Félix Kabangé, membre de la famille politique de Joseph Kabila et ministre de la Santé, donne la position du gouvernement.
Et au niveau de la majorité où nous sommes, nous n'avons jamais parlé de glissement. Nous sommes en train d'insister sur le fait qu'on doit passer aux arriérés électorales. Il serait anormal que nous puissions aller aux élections présidentielles fin 2016 sans avoir fait des élections locales et municipales qui étaient prévues depuis 2006, sans pouvoir passer aux élections provinciales. Vous comprenez un peu que là, il y a quand même un torse dans la procédure.
Selon lui, les opposants n'ont pas raison car la population de Kinshasa ne suit même pas leurs appels à manifester. Les forces de sécurité déployées depuis vendredi à travers Kinshasa ont déjà empêché la tenue des manifestations dimanche et lundi près du Parlement. Après bousculade, l'opposition est finalement sortie de la séance, laissant la majorité discuter de cette loi qui devra être envoyée à une commission pour amendement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Triste anniversaire aujourd'hui en Haïti, 5 ans déjà qu'un tremblement de terre a ravagé ce pays de la Caraïbe. 300 000 personnes ont perdu la vie à l'époque et Port-au-Prince, la capitale, détruite. Les Haïtiens commémorent ce douloureux souvenir, les drapeaux ont été mis en berne. La vie a repris, mais la reconstruction traîne et des dizaines de milliers de personnes vivent toujours dans des tentes. Pour faire le bilan, Nicolas Pinault a joint Clarence Renoy, correspondant de la Voix de l'Amérique sur place.
Les Haïtiens n'ont pas oublié. Les Haïtiens sont en train de rendre hommage aux victimes du séisme. Le bilan, il est difficile à établir puisqu'il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de promesses non tenues. Et la reconstruction véritablement que tous les Haïtiens espéraient, attendaient, n'est pas vraiment au rendez-vous. Si on tire un bilan, il n'y a que quelques bâtiments publics qui sont en chantier toujours. C'est vrai que les personnes qui vivaient sous les tentes, 1,5 million, sont passées à 85 000 environ. C'est une grosse satisfaction à ce niveau. Mais il reste beaucoup à faire parce que ces gens qui sont sortis sous les tentes sont allés grossir les bidonvilles aux alentours de Port-au-Prince. Donc ce qui fait que le problème du logement n'est pas vraiment résolu.
Chaque année, malheureusement, apporte son lot de catastrophes naturelles. Est-ce que la communauté internationale est toujours aussi présente en Haïti ?
Non, elle est moins présente ces derniers jours, parce que ces dernières années même, je dirais, parce que l'aide a beaucoup baissé. Et même si 4 à 5 milliards de dollars ont été dépensés, on ne voit pas trop des réalisations avec cette somme qui a été déboursée sur les promesses de 8 à 9 milliards. Et la communauté internationale est moins présente parce qu'il y a beaucoup d'autres points du globe où il y a des problèmes aussi à résoudre. Et ici en Haïti, on n'a pas beaucoup avancé. Donc il va falloir que les Haïtiens se serrent la ceinture, que les Haïtiens se remettent ensemble à travailler pour pouvoir changer la situation avec ou sans l'aide de la communauté internationale.
Et actuellement, on peut dire que même 5 ans après le séisme et malgré l'élection à la présidentielle de Michel Martelly, le pays est toujours dans l'impasse politique.
Oui, c'est l'instabilité qui n'a pas... Il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Au contraire, les choses se sont empirées au cours de ces derniers mois, de cette dernière année. Il n'y a pas eu d'élection depuis 4 ans dans le pays, ce qui a conduit dans une impasse où aujourd'hui le Parlement n'existe plus. Le président, à partir d'aujourd'hui, peut diriger seul, mais dans quelle atmosphère politique, puisque les institutions républicaines démocratiques sont défaillantes. Et ça crée beaucoup d'inquiétudes. Et hier soir, une dernière tentative de trouver un accord a été signée. Il y avait eu un accord signé, mais le Parlement n'a pas pu se réunir pour non seulement entériner l'accord, mais prolonger aussi le mandat des parlementaires pour permettre un équilibre des pouvoirs et en attendant de nouvelles élections. Voilà, donc on est dans l'incertitude et encore dans l'instabilité qui est la marque, je dirais, de fonctionnement de cette République et qui empêche justement le progrès économique, le développement durable.
Clarence Renoy, correspondant de La Voix de l'Amérique à Port-au-Prince.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. C'est aujourd'hui lundi 12 janvier, date anniversaire du séisme en Haïti. 5 ans après le tremblement de terre qui a fait plus de 230 000 morts et dévasté la capitale, le monde s'en souvient toujours. Plusieurs artistes haïtiens et d'ailleurs avaient chanté pour Haïti à l'époque. Ils ont offert des chansons pour récolter des fonds et venir en aide aux nombreuses victimes du séisme. On écoute ce soir Haïti Pape Mouri. Haïti ne mourra pas.
Si 1804 dérivé fête, étoiles brillaient pour toutes soyez.
Haïti pape mourir, Haïti tout réuni. Bien en yo qui dit.
C'était Haïti Pape Mouri, une chanson d'un collectif d'artistes haïtiens pour venir en aide aux victimes du séisme de 2010.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane et une pensée spéciale aux frères et sœurs haïtiens qui ont aujourd'hui rendu hommage aux milliers de victimes du séisme dévastateur de 2010.
C'est pour la vie.
Morgane Guériac, nous qu'on a tristesse, mais c'est belle musique, pays la caille, hein.
C'est payant, mais quand même, nous solidaires.
Merci. Voilà, Morgane Guiria qui offre sa solidarité, comme toujours. Et Haïti Pop Mouri, un collectif d'artistes, l'avait composé et chanté. C'était vraiment une très belle composition. Et merci, Roger. C'est la fin de cette édition. Mise en onde par Lionel Gaïma avec l'assistance technique de notre ami Dryden.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiria et Chérubin Dorsine.